Les auditrices de Radio U, les auditeurs de Radio U, les auditrices et auditeurs de Fréquence Mutine ont décidé, en tout cas, nous les radios associatives brestoises, de se joindre à ce mouvement de masse, ce mouvement de fond, ce mouvement vraiment essentiel qui a lieu depuis un moment avec ces salles occupées, toutes ces préoccupations que nous avons par rapport à la défense de la culture et bien plus large évidemment, parce que là on est vraiment sur des choses très très globales. Et donc aujourd'hui on en a parlé sur nos radios respectives. Il y a un mouvement massif, uni, fort, qui se dessine. On vous incite d'ailleurs à tous nous rejoindre pour manifester à partir de 16h. Et l'idée de proposer une émission un peu comme ça, à brûle pour point, avec plein d'invités, pour faire un point sur la situation, avoir des témoignages, recueillir des peut-être des idées, avoir des gens qui ont peut-être des choses sur le cœur à nous exprimer. Et pour m'accompagner, j'ai Marion de Radio U. Coucou.
Salut, ça va ?
Mais oui, ça va bien. Et puis Anaël, qu'on connaît bien, Mutine.
Bah oui, on s'est quitté tout à l'heure et puis nous revoilà sur les ondes.
Et notre premier invité, c'est Olivier. On t'a déjà rencontré, nous, à Mutine. Tu fais partie du Quartz Occupé, de ce mouvement qui a démarré déjà quand ?
Bonjour déjà, bonjour tout le monde. Merci pour ce temps de parole que vous offrez. Voilà. On est rentré le 11 mars à 17h45 précisément. Voilà. Ici au Quartz. Donc on est au 43e jour d'occupation.
Voilà, une occupation qui n'a de cesse de grossir, en tout cas de se faire connaître, de le faire savoir au plus grand nombre. Il y a déjà eu plusieurs actions qui ont été menées, des actions qui ont lieu quasiment tous les jours d'ailleurs au niveau du Quartz. Et tu nous disais là juste en antenne, une mobilisation aussi qui grossit à travers les réseaux sociaux, avec de plus en plus de gens qui rejoignent des groupes où on peut partager toutes ces informations et toutes ces préoccupations.
Oui, alors effectivement, déjà au niveau régional, on s'est organisé, on s'est retrouvé avec toutes les autres salles occupées il y a une semaine maintenant, ou 15 jours, le temps passe vite. À Saint-Brieuc, on était allé voir les copains à la passerelle, voilà, pour essayer de s'organiser et de faire des actions régionales qui soient identiques, similaires, et de s'organiser là-dessus. Ça, c'était le premier point. Après, il y a une idée ici au Quartz qui a émergé, c'est dans la lignée des camarades en Italie, avec l'action des Flycases. On a utilisé effectivement le réseau, les réseaux et les groupes qu'on a mis en place depuis le début de cette crise. Et au moment où on se parle, c'est aujourd'hui, il y a 30 civils en France qui vont suivre cette action, l'action des Fly, et plus largement, il y a un appel au rassemblement pour l'ensemble des gens du spectacle. Voilà.
Et puis c'est pas que pour les gens du spectacle aussi, c'est de ce que j'ai compris, c'est aussi une lutte interprofessionnelle en fait.
Alors oui, effectivement, ce qui se passe, c'est que la lutte s'est élargie, notamment pour la date du 23, donc aujourd'hui, où c'est un appel en interprofessionnel. Voilà, il y a des collectifs qui nous ont rejoints, d'autres collectifs qui nous ont rejoints. Des syndicats aussi évidemment, voilà. Donc l'appel d'aujourd'hui il est essentiel. C'est vraiment une très très grosse journée de mobilisation pour toute la France. Voilà, donc il y a les 102 lieux qui seront, il y a 102 lieux occupés et il y a énormément de villes. En ce qui concerne l'idée qui arrive de Brest de lancer cette histoire de Flycase, il y a 36 villes en France qui vont jouer du Flycase et faire vibrer les pavés de ces 36 villes de France.
Parce que donc tu l'as dit, vous étiez au Quartz à partir du 11 mars. Vous étiez le cinquième lieu à être occupé en France. Aujourd'hui, vous êtes 102 théâtres occupés. Est-ce que c'est la première fois qu'un mouvement social qui vient des intermittents prend autant d'ampleur ?
Non, il y a déjà eu des précédents. Hein. Après, là, ce qui se passe, oui, je pense qu'il y a une mobilisation qui est un peu plus forte, parce qu'il y a énormément de gens qui sont concernés. Parce qu'il y a les annexes 8-10, évidemment, mais encore une fois, dans le monde du spectacle, déjà, c'est 60% d'annexes 8 et 10, c'est 20% de régime G, 20% d'indépendants. Donc, et là, on peut voir, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a Sylvain d'Audiolite qui est là, qui est dans l'action avec nous et qui soutient ces gars, quoi. Voilà.
peut-être pensant aux gens qui nous écoutent, annexes 8 et 10, eux, c'est peut-être obscur pour eux. Est-ce que tu peux nous simplifier ou
Oui, en gros, c'est certains statuts qui concernent l'assurance chômage. On est rattaché à des annexes, voilà, tout simplement, avec un régime un peu plus particulier que le régime général. Tout simplement dans le calcul des heures, dans le calcul des indemnisations, c'est pas la même chose que pour le régime, quelqu'un qui serait au régime général et qui passerait au chômage. Nous, c'est pas le mode de calcul n'est pas le même. D'où ces annexes, une pour les techniciens et une autre pour les artistes.
Il y a des échanges quand même avec le gouvernement, avec le ministère de la Culture. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de est-ce que vous faites face à un mur? Vous en êtes où actuellement dans les relations?
Plusieurs points. Les syndicats du spectacle, évidemment, sont en lien avec le ministère de la Culture. Moi, en tant que président du LGDS, j'ai moi-même participé à des visioconférences avec le ministère de la Culture et avec la DGCA. Ou DGAC, pardon, autant pour moi. Après le résultat, c'est que c'est carrément, enfin, c'est beaucoup de paroles, il y a très peu d'actes. On attendait le rapport Gouron qui est enfin sorti, avec des propositions. Donc là, voilà, ça a deux fois trois jours, même pas quoi. Donc avec des propositions qui sont faites dans ce rapport pour la prolongation de l'année blanche, avec quelles conditions. Voilà. Ils ont émis quelques options. Après à voir ce que le ministère du Travail, parce que là c'est le ministère du Travail derrière qui va dire oui ou non, et évidemment le ministère de l'Économie. donc on va voir quelles options eux sur quelles options ils vont pencher quoi. Mais en gros il y a deux trois options, voilà.
Donc peut-être dernière question. Il y a deux choses. Il y a le fait que ça soit le fait que ça soit le Covid et donc que l'activité soit complètement stoppée. Mais du coup, il y a aussi le fait qu'il y ait cette réforme du chômage qui fait que le statut d'intermittent il est en danger en fait. C'est ça.
Alors, en ce qui concerne la réforme de l'assurance chômage, elle va toucher énormément de monde. Il y a, pour pas vous dire de bêtises, je vais prendre mon petit pense-bête avec mes chiffres, mais ça va toucher, si ça passe au 1er juillet comme c'est prévu, ça va toucher 1 150 000 personnes. Et en gros, pour la faire courte et sans rentrer dans les détails, il va falloir travailler plus longtemps pour pouvoir bénéficier de certains droits. Sauf que, en gros, si vous travaillez 3 jours, pour calculer le montant de votre indemnité journalière, ils vont prendre les 30 jours du mois. Donc, ça veut dire que votre taux journalier va baisser d'une façon extrêmement drastique. Voilà. Donc, ça, c'est le gros problème. Après, il n'y a pas que... Nous, on est bien évidemment dans la continuité de ce truc-là, mais ça concerne beaucoup... Ça va d'une manière beaucoup plus large que les annexes 8 et 10.
Alors... On l'a compris, il y a eu une ouverture, enfin une implication de plus en plus importante de plein de salles, plein de villes, plein de gens qui se mobilisent. Là maintenant, on passe, j'ai l'impression, quand même à une phase supérieure. Tu le disais, il y a une coordination régionale qui s'est montée, qui part de Bretagne, avec, j'imagine, l'idée d'avoir des coordinations équivalentes dans d'autres régions pour arriver à un mouvement national hyper hyper puissant, hyper fort. Ce que vous faites là aujourd'hui, les Flycasts, c'en est un exemple assez clair.
Oui, c'est un très beau début et ça va permettre, je pense, de pouvoir monter en puissance derrière, en parlant de mobilisation régionale, puisqu'effectivement, comme tu le disais, il y a eu ce premier pas qui a été fait là dans les 15 derniers jours. Je sais qu'ils ont une ou deux autres, enfin c'est en train de se mettre en place dans d'autres régions. Par contre, je sais qu'il y a une représentation de Brestois, plutôt une Brestoise, qui descend en coordination nationale, Jacqueline, qui descend à Villeurbanne 26-27. Donc là, elle part dimanche pour aller rencontrer justement les autres lieux occupés. Mais ça, c'est en coordination nationale. Donc ça avance.
C'est pour avoir aussi des échanges d'idées, peut-être, des initiatives, parce qu'il y a aussi toujours, on l'a compris, cette volonté de... Il faut que ça parle au plus large, hein, ça concerne tout le monde, cette histoire-là. Donc, par ce biais-là, en effet, pouvoir proposer des actions réfléchies et communes, quoi.
Exactement. L'idée, c'est d'avoir des actions qui puissent monter en puissance, comme je disais, parce qu'il y a un moment, voilà, il faut que ça bouge, plus que juste trembloter. Et voilà, pour échanger. Enfin, voilà, c'est ce que tu viens de dire, c'est exactement ça.
Et ce 11 mars, lorsque vous êtes rentré à 17h45 dans le Quartz, est-ce que vous aviez conscience que ça prendrait autant d'ampleur, ce mouvement?
On n'avait pas conscience, non, on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Par contre,
vous étiez convaincu de ce que ça
On était convaincu qu'il faut faire quelque chose. Mmh. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'à Brest, c'était obligé que ça bouge. Et encore une fois, on a bougé très vite. On a bougé 5 jours après l'Odéon, le temps de s'organiser, d'appeler les copains et de voir comment on allait faire. Voilà. Donc, moi, je pensais pas. Enfin, à titre perso, je pensais pas qu'on serait à 102 lieux occupés au total. Voilà.
C'est ta première occupation de lieu culturel comme ça?
Oui, tout à fait. Première occupation.
On a parlé des relations avec le ministère de la Culture, notamment au niveau politique, au niveau local, au niveau régional. Vous avez aussi des échanges, j'imagine. Ils sont de quel ordre?
Je dois donner une réponse dans quel sens?
Dans le sens que...
Bon, bah, c'est bien. Après, les deux députés qu'on a rencontrés, ils sont à la commission défense. Donc voilà, c'est bien, ils ont écrit une lettre. Voilà, no comment.
Très bien.
Après, avec la mairie, on s'entend très bien. Et avec le Quartz, on s'entend, il n'y a aucun souci. En tout cas, voilà. Mais par contre, bon, voilà, ma réponse pour les députés. C'est gentil, il fallait le faire, quoi. Ils sont contents.
Parce qu'il y a aussi, comme, je sais pas, il y a des affaires culturelles au niveau régional, il y a des départements qui s'occupent de ça. Enfin, ils faisaient pas de rapport
en
plus.
En tout cas, ils sont pas venus à notre rencontre et il y a pas plus de rapport que ça.
Voilà. Bon, la chose est dite.
Voilà.
Et c'est clair.
Oui, oui, non, mais on reste encore une fois avec les politiciens, dans un blabla, où, voilà, enfin, c'est des paroles, les actes, il y en a pas, hein. Ça, c'est clair et net. Et il y a un moment, voilà, quoi. Ils s'en foutent.
Voilà. Donc, action. Et on vous incite, hein, vraiment à nous rejoindre. Place de la Liberté à partir de 16h pour toutes celles et tous ceux qui sont sur Brest. Si vous nous écoutez sur Internet, que ce soit sur Mutine Radio, et vous êtes dans une autre ville, ben, sachez qu'il y a quand même 36 villes qui se mobilisent. Alors aussi vite, à 3 km de chez vous, vous allez pouvoir rejoindre cette manifestation, qu'on soit à Hoche, qu'on soit, je sais pas, à Nantes, au Mans, il y a énormément à Nîmes, il y en a toute une liste. Hein.
Oui, donc oui, il y en a vraiment partout. Après, la liste, faut la retrouver sur Quartz Occupé. Je pense que les collègues ont diffusé ça d'une autre manière, mais j'ai pas l'info, donc je peux pas vous la donner. Mais ouais, il y a 36 villes. Après, si on reste dans du local, ça joue partout déjà sur la Bretagne, Nantes aussi. Après, les horaires sont pas les mêmes. Paris, j'y ai 8h ce matin. Tout à l'heure, à 13h, j'ai un pote de Bordeaux qui me téléphone pour me dire on est en quinconce, on est prêt, feu patate. Bref, on a tous envie de foutre le feu aujourd'hui et on va le faire. Partout.
Voilà, et nous on est là pour relayer un petit peu ce mouvement à travers nos radios. On va faire une petite pause musicale parce qu'on ne peut quand même pas oublier la musique. Il y a pas mal d'artistes qui vont venir nous rejoindre tout au long de cette émission, mais juste après la pause, nous aurons deux intermittents qui vont venir aussi nous parler de leur vécu, peut-être au quotidien, de comment ils vivent ça, parce que voilà, il y a des impacts, hein, qui se font au quotidien dans la vie de chacun. Mais avant de les accueillir, un peu de rock australien.
We'll be right back.
on est toujours donc en direct du Quartz. Vous nous écoutez sur le 101.1 et le 103.8 avec donc Fréquence Mutine et Radio U. On est ici en fait dans une ambiance un peu folle. On est
on s'est fait envahir en fait.
Ouais,
faut dire ce qu'il y a.
Complètement.
Là,
on est dans une ambiance folle, mais de lutte et d'à la fois de. On sent que tout le monde est content d'être là, content de se voir et autour de nous. Donc on a des artistes et des techniciens. Voilà.
On n'a pas assez de micros pour tout le monde. Alors, on va faire une sorte de petite table ronde, discussion, échange, ping-pong. Chacun pose ses questions, chacun y répond ou pas. Mais voilà, donc cette situation qui n'en finit pas et cette mobilisation qui grossit. J'ai envie de commencer peut-être par comme ça parce que j'ai pas mal de gars de Merzine qui sont là. Puis eux, ils sont depuis tout le début, hein, depuis le 11 mars, occupés le Quartz, avec ce côté à la fois très présent parce que bah, vous êtes musicien, vous connaissez bien, mais aussi très proche des techniciens. Vous êtes intermittents, vous êtes tous intermittents ici, mais peut-être avoir le regard, peut-être ton regard, Pierre, pour démarrer. Et puis après, on va rebondir en ping-pong.
Bah, bonjour.
Bonjour.
Bah oui, c'est vrai. En plus, nous, on avait un peu les deux casquettes pendant 10 ans. Moi, on était tous techniciens et musiciens en même temps. Donc, effectivement, on connaît bien le problème. Après, c'est vrai que nous, quand on a vu ici que le Quartz allait être occupé, on s'est dit, bon, il faut qu'on soit présent aussi. Voilà, montrer notre soutien, justement, à la famille technicien et aussi représenter celle des artistes. Donc évidemment on était là. Après évidemment c'est un mouvement qui dure puisqu'on n'a pas de réponse en face vraiment précise, si ce n'est des paroles en l'air. Donc effectivement c'est parti pour durer. Ce qui est bien aussi c'est qu'on voit que ça fait boule de neige un petit peu partout depuis l'Odéon, le premier à avoir occupé. Donc on sent vraiment une grosse force aussi, ça se fédère un peu plus aussi avec les autres mouvements, donc ce n'est que bien pour pouvoir se faire entendre efficacement. Donc effectivement, on est un peu là de cette situation. Effectivement, c'est-à-dire depuis plus d'un an, on peut pas. Bon, on est content d'être là, mais on serait mieux de se voir dans une salle, c'est sûr. Donc voilà, on attend aussi voilà des décisions fortes, un calendrier pour la reprise, des engagements du gouvernement. Donc bon, pour l'instant, on a encore besoin d'attendre. Et puis voilà, on va faire des actions quoi.
Alors vous, Merzine, vous étiez là depuis le premier jour de l'occupation du Quartz. Au départ, ce mouvement, il a beaucoup été animé par les intermittents qui occupaient des rôles de techniciens, techniciennes son. Pauline, vous, comment est-ce que vous pourriez décrire un peu comment, parce que vous étiez là aussi depuis le début, comment est-ce que les gens sont venus au fur et à mesure, comment les artistes ont rejoint ce mouvement qui a été vraiment lancé par les techniciens et techniciennes?
Bah, c'est parti vraiment de l'Odéon et Brest était quand même le cinquième à être occupé. Et en gros, c'était faire boule de neige, enfin, pour que tous les lieux soient occupés. C'était aussi la volonté que ça, enfin, voilà, que chacun puisse investir son théâtre ou sa salle. Et au Quartz, du coup, quand on est arrivé, ouais, on était beaucoup, une majorité de techniciens et techniciennes. Et, bah, c'est au fur et à mesure, ça prend du temps que les gens en entendent parler et après, viennent. Et il y a des AG tous les jours, tous les matins, c'était l'occasion d'en parler en tout cas. Et puis voilà, au fur et à mesure, bah, y a des gens qui ramènent des gens, enfin, ça se construit comme ça en fait.
Alors cette crise, si elle impacte évidemment tout le monde, parce que tout est à l'arrêt, clairement, mais au niveau personnel, évidemment, bah, les parcours, les situations de chacune et de chacun sont hyper variables selon ce qu'on fait déjà. Si on peut, il y a des musiciens qui peuvent avoir un petit peu d'activité, d'autres pas du tout. Les techniciens n'en parlons même pas. On arrive à échanger entre nous sur ces situations-là. Est-ce que c'est aussi une forme de pas de soutien, mais est-ce qu'on arrive à se soutenir mutuellement?
Je sais pas ce qui veut parler, mais en tout cas. Enfin, voilà, entre tout le monde, ouais, je pense que c'est plein de milieux aussi différents, le spectacle, les concerts, le théâtre. Enfin voilà, ça, les grosses scènes, les festivals. Enfin, en fait, on vient tous d'un peu partout et on se croise depuis longtemps aussi. Et là, c'est aussi l'occasion de renforcer un peu ça et d'en parler de nos conditions. On a tous, oui, effectivement, chacun nos choses, mais je pense que quelqu'un a envie de parler.
Est-ce que, par exemple, là, autour de la table, est-ce qu'il y a des gens qui qui n'ont vraiment rien fait, qui n'ont rien pu faire depuis le début de cette crise dans leur profession, je parle. Ou alors est-ce qu'on se bagarre pour pouvoir quand même essayer de vivre parce qu'on de sa passion. Donc, quand je dis vivre, c'est pas vivre financièrement, mais vivre pour soi, quoi.
Moi, ce qui me peine, c'est pas tant d'avoir rien pu faire. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même pu faire quelques concerts. Ce qui me peine, c'est surtout de voir le nombre de concerts qui, eux, n'ont pas eu lieu. J'ai compté, il y a pas très longtemps, entre mars 2020 et là, aujourd'hui, j'en suis à 70 concerts annulés, je crois. Donc certains, on en était au troisième report. Ça commence à être assez compliqué de se projeter, en fait. Et ça, c'est la première phase du truc. L'autre facette, c'est qu'en fait, pendant tout ce temps-là, il y a aussi des projets qui auraient pu se lancer, des productions, des labels qui nous contactent pour faire des choses. Ça, en ce moment, bah, en fait, on compte même plus du tout dessus. Donc c'est ça qui nous... À titre personnel, en tout cas, moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est de pas avoir d'horizon. Après, je suis pas inquiet pour ma situation personnelle, je suis pas inquiet pour la situation personnelle. C'est juste que la planète entière du spectacle, du cinéma aussi, dans une certaine mesure, elle est en train de s'émietter, en fait. Si on laisse faire le truc, on manque surtout de perspective. Ouais, c'est ça qui me parle
c'est
le plus.
Aucune visibilité et pas de lisibilité non plus.
Et c'est pas tant d'avoir pu quand même maintenir des activités, que ce soit du studio ou du cinéma. C'est très bien qu'il y ait eu quelques petites choses, mais en fait, c'est pas ça qu'on veut faire. Moi, c'est pas pour ça que je fais ce métier. C'est pas en essayant de recoller des petits bouts de pièces à droite, à gauche. Ah tiens, je vais pouvoir faire ça, c'est super. Non, moi, j'ai envie de pouvoir projeter, voilà, de pas être en train de reporter des dates tous les deux mois et puis de se dire, alors là, je vais pas pouvoir te répondre. Les plannings, ils sont compliqués parce qu'en fait, le mois de juin, normalement, je suis là. En fait, on est tous paralysés par ce brouillard général qui nous... Enfin, vraiment, on n'a aucun moyen de se projeter au-delà de dans 15 jours, quoi. Et encore 15 jours, c'est pas gagné non plus, quoi.
Ouais, c'est... J'ai une phrase qui me vient, là. En fait, ce qui est emmerdant, c'est qu'on a l'impression d'être dans un mouvement de panique, une peur généralisée qui empêche les gens de réfléchir, de construire... Et ça, c'est, il faut vraiment, enfin, faut s'en méfier parce que c'est assez paralysant finalement. Et ce dont les gens, enfin, je veux pas généraliser, mais me semble-t-il, souffrent, c'est qu'ils ne puissent pas se projeter justement. Parce qu'on nous dirait, bon, mais alors qui va nous dire, je vais jeter la pierre à personne, c'est pas le problème. Hein. En tout cas, on aurait tous en tête, dans X jours, X mois, ça reprend. Ok, on fait avec, on s'adapte, on fait ce qu'on peut en attendant et on y retournera. On sait qu'on a une porte de sortie, mais là c'est pas le cas. Et donc il y a ce climat de peur panique qui, à mon avis, n'est pas très bénéfique pour affronter, en l'occurrence, un virus de ce genre, quoi. Hein. Parce que c'est bien ça le problème, hein. C'est pas autre chose finalement. Et donc c'est assez paralysant, ouais, c'est emmerdant. Donc chacun fait ce qu'il peut dans son coin. Il y en a qui morflent grave. Parce que voilà, et je parle pas que des intermittents. Hein. Je sais pas. Moi, je suis un peu. Alors, je suis pas en colère envers une personne ou un fonctionnaire, mais je suis un peu en colère envers nous tous. C'est-à-dire, je dis putain, on en a encore là, quoi. Des pandémies, il y en a eu dans le monde, et des sérieuses, et des beaucoup plus dévastatrices que celle-ci. Je vois des infos passer, j'entends. Quand on nous parle de chiffres, alors un coup c'est en pourcentage, un coup c'est en personne humaine quand il s'agit de nombre de morts. Alors on nous balance tout ça, mais est-ce que les gens savent combien de personnes naissent ou meurent par an, ne serait-ce qu'en France? En temps normal, j'entends. Hein. Parce que ces chiffres-là, on les connaît pas non plus. Bon, ça représente du monde, c'est la vie. Maintenant, ce climat de peur, moi, ce qui m'agace, c'est que si on doit passer sa vie à avoir peur de la mort, je vois pas trop l'intérêt de la chose. Donc, et après, alors, je veux pas faire long, mais pour revenir plus concrètement à ce qui nous intéresse plus ou moins, moi, il y a une question, parce que quand j'observe tout ça, je me dis, mais alors, j'ai pas forcément les solutions, hein, je suis pas plus malin qu'un autre, mais peut-être trouver les méthodes pour trouver les solutions. Et j'ai l'impression que décider pour tout le monde, ne connaissant pas, n'ayant pas les compétences, le savoir-faire, le métier, par exemple, en l'occurrence, pour ce qui est des concerts, bon, que ce soit compliqué à faire, ok, pas de problème, mais qui n'est pas mieux placé pour savoir ce qu'il est possible de faire que les organisateurs de concerts, que les gens de ce métier-là, hein, je vais pas voilà, les responsables de salles, les responsables de festivals, tutti quanti, on doit s'adresser à ces gens pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et si on peut faire quelque chose, ce sont eux les mieux placés pour savoir ce qui est possible de faire. Voilà, et j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe.
C'est vrai qu'en tout cas, ce climat de peur et cet inconnu se lie à plusieurs niveaux. Elle peut se lire évidemment au niveau de ce statut qui n'est pas pour l'instant renouvelé, qui reste en suspens avec beaucoup d'atermoiements, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis de savoir aussi comment ce sera demain, quand on est musicien, quand on est technicien. Comment vous vous projetez déjà, est-ce que vous arrivez à vous projeter, à vous dire... Bah, ça va revenir comme avant ou de moins en moins, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un sentiment qui ressort.
Comme on est à la radio aussi, peut-être qu'il faut penser à se présenter. Là, on vient dans les membres de Manmata, et là, c'est...
Oui, c'est Pierre, bon. Oui, effectivement, c'est le modèle d'avant, je sais pas, au moins, enfin, j'imagine que pour les festivals, on n'est pas prêt de revoir des festivals à plus de 10 000 personnes, hein, je pense pas, dans l'immédiat. Effectivement, on a parlé de ça, il y a quand même les protocoles ont été présentés pour au moins faire des salles place assises. Nous, avec la Carène, on avait monté donc notre spectacle. Normalement, on doit le faire début juin, là, bon, évidemment, avec des gros guillemets. Mais voilà, les protocoles ont été présentés justement pour recevoir le public dans les conditions de sécurité maximale pour les artistes, pour le public. Donc, effectivement, dans une salle de la Grande Carène avec 200 personnes assises, je vois pas trop pour elle le danger, surtout qu'on se déplace pas. Donc voilà, je pense que les protocoles effectivement étaient sûrs. Après, c'est une histoire de volonté politique. Pour moi, c'est juste que bon, on a mis la culture de côté. De toute façon, c'est pas très important au final. Pour moi, cruelle erreur, puisqu'en plus, c'est quand même la culture. Je pense que notre pays, c'est un bon représentant de la culture justement sous toutes ses formes. C'est aussi pour ça que les gens aiment la France, viennent voir la France, visiter la France. Et c'est quand même des pays les plus visités au monde. Je pense que moi c'est une cruelle erreur d'avoir laissé la culture de côté. Et voilà, maintenant donc il va falloir trouver des protocoles justement pour reprendre justement. Et là pour l'instant lettre morte. Et le temps avance. Ça fait plus d'un an. À un moment oui la lassitude est là et puis l'incompréhension aussi totale.
Christophe Miossec, toi aussi, tu as eu une tournée qui a été interrompue en plein vol avec cette crise sanitaire, même si on a pu te voir justement au Quartz à un moment. Comment toi tu as vécu ça au démarrage et comment ta réflexion a évolué avec le temps par rapport à tout ce qu'on vit?
La réflexion, c'est qu'on se rend compte que pour Macron, les gens de la culture sont pas... très intéressant parce qu'ils vont pas voter pour lui en 2022, donc il fait le pari que de s'en passer en fait. Mais le problème c'est que la culture ça représente beaucoup plus que l'industrie automobile aujourd'hui en France. Je sais plus, les chiffres sont délirants, c'est 74 milliards, un truc comme ça. Donc il y a un vrai choix politique de se passer de la culture parce que ça va pas être l'électorat qui va voter pour lui en 2022. Mais le problème c'est que qu'est-ce qui va se passer en 2022 quoi en fait. Il y a un grand danger de ce côté-là.
On perd le contre-pouvoir, d'une certaine façon.
Ah oui, complètement.
Alors cette occupation du Quartz, c'est certes pour vous montrer votre colère, votre mécontentement, mais c'est aussi des moments de création et de réflexion commune. Depuis le début de l'occupation, tous les jours à 13h, il y a une sorte d'agora justement sur le parvis du Quartz. Qu'est-ce qui émerge de ces moments d'échange depuis le début de cette occupation?
Je sais pas comment l'expliquer. Ça veut dire que mes copains artistes là que je connais depuis.
Alors là, juste on entend Jacquito, donc l'un des.
Oui, bon, c'est pas
peine de me présenter. Un intermittent. Enfin,
c'est tous des amis, puis des gens que je côtoie depuis 30 ans, avec qui j'ai partagé. Pierre, il a signé des contrats de travail avec moi quand il était rôde. Christophe, j'étais moins chiant à l'époque, mais bon, maintenant c'est ça. Gégène qui est ici, bon, c'est des gens qui c'est surtout notre côté. Qui défend ce qu'on a aimé dans ce métier et ce qu'on aime d'ailleurs, c'est la culture, c'est la passion, c'est la vibration, c'est ça. Ouais, j'ai jamais appris à parler dans un micro, mais ça va venir un jour quand je serai retraité à 65 ans. Tu viendras m'aider, hein, teuf. Et c'est voilà, ce qui émerge du Quartz, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont dit on va se rebeller, quoi. On va se rebeller, mais moi, même dormir sur une banquette, comme tu vois là, j'ai 60 ans, dormir dans un sac de couchage, bon, ça me gave un peu, mais si je viens pas aider mes copains, surtout pour la vision de nos enfants, des métiers qu'on a créés, parce qu'à l'époque, régisseur, c'est bien, c'est toujours savoir déléguer, tu vois, ça c'est super bien. Je sais pas qui c'est qui fait la technique, mais un micro à chef, ça aurait été super. Et... t'as pas d'argent, c'est ça que t'es en train de me dire. Tu vois. Et ça, c'était la petite boutade à 2 francs. Bah, de toute façon, faut que je fasse ambianceur, c'est comme ça que je suis perçu, de toute façon, pour le moment. C'est juste de générer, tu vois, ce métier, le quartz, il y a des gens qui ont pris la décision. Moi, je suis arrivé qu'une semaine après, en me disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Si moi, tu vois, je viens pas leur donner un petit coup de louche, apporter une petite pierre à l'édifice pour de mon savoir, de mon aura. Enfin, on s'en fout, tout ça. C'est juste, ça veut dire que je serais pas crédible et je pourrais pas être, je serais pas satisfait d'une carrière que je connais depuis 30 ans, tu vois, où les festivals, le rock'n'roll, enfin tout ça, on a quand même créé cette terre de culture. Ce serait indécent de ma part. Et je te jure, quand je te parle, j'ai vraiment les larmes aux yeux. Je vais passer le micro à mon copain Gégen.
Jean-Pierre de Red Cardel. Merci d'être là, Jean-Pierre, parce que tu pourrais être aussi sur Quimper, parce que vous êtes sur Quimper. Tu vas pouvoir aussi nous parler, parce qu'il y a cette unification, hein, ce mouvement global qui dépasse le niveau local. Là, on est au niveau régional. L'idée, c'est d'avoir ce gros mouvement au niveau national. Toi, j'aimerais bien avoir ton regard aussi, puis que tu nous parles un petit peu de comment ça se passe, l'occupation à Quimper, parce que Quimper aussi est occupé.
Bah oui, Quimper est occupé, et puis, tu sais, entre Brest et Quimper, c'est quand même le Finistère, et voilà, on se sent bien quand on vient à Brest aussi, hein, bien au contraire. Voilà, et on aime beaucoup. Le truc, ouais, je pense que ce qui est intéressant, ce qu'on voit ressortir, je trouve, à Quimper, moi, mon côté, j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens de musique traditionnelle. Faut pas les oublier, parce que tous les musiciens qui jouent en fez-noz, là, c'est très, très compliqué, parce que ils sont sur un répertoire à danser, donc, c'est plus possible. Et ça, dès le départ, et donc, je pense à mes copains à Quimper, parce qu'il y en a beaucoup qui sont musiciens de trad comme ça, et puis voilà, et ils se posent tous la même question que ce dont on vient de parler là sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait, comment on existe, parce qu'on est au chômage en fin de compte. Ce qui est intéressant, c'est que faut aller au-delà de simplement du problème de l'intermittence ou du statut, etc. C'est aussi un combat contre la précarité dans son ensemble. Nous, on a un métier bien placé, parce que un métier artistique, par essence, on part sur un principe de précarité, souvent, au départ, en tout cas quand on commence, on ne sait pas vraiment où on va, on n'a pas les outils pour atteindre un objectif, forcément, on les connaît pas, on les maîtrise pas, donc il y a ce côté de la précarité, et là je trouve que ça va au-delà de tout ça, parce que on est vraiment au chômage, et on peut se rendre compte de ce que c'est d'être au chômage, et donc faut arrêter de stigmatiser les gens qui sont dans la précarité ou qui sont au chômage, parce que dans le fond, c'est pas marrant. C'est pas marrant de ne pas pouvoir travailler. C'est déjà, au départ, on devrait commencer à penser comme ça. Et donc, je trouve que ce qui se passe actuellement a le mérite de remuer plein de choses comme celle-là, sur ce principe, en fin de compte, de vivre ensemble et de comprendre que quand quelqu'un est bloqué et que quelqu'un est au chômage, ne peut pas travailler, c'est douloureux. C'est douloureux parce que le travail, ça te place socialement parmi les autres. Parce que t'as la relation humaine avec les gens, mais t'as aussi l'endroit où tu es socialement. Et je trouve que le travail, c'est quand même ça qui nous permet de vivre tous ensemble. Et donc, d'être dans cette situation-là, je pense à tous les gens qui sont au chômage, à tous les gens qui sont dans la précarité. C'est un moment où on doit se mettre à leur place pour comprendre ce que c'est. Cette difficulté d'avoir le sentiment de ne plus exister. Voilà. Tout ce que j'ai à dire.
C'est des mots qui sont très forts. Et moi, il y a des mots aussi en balandant au quartz qui m'ont touchée. C'est une affiche qui dit on va trop loin pour ceux qui ne vont nulle part. Et en faisant quelques interviews, on a entendu certains artistes et techniciens dire que l'occupation des lieux, c'est important, c'est bien, mais c'est pas assez. Est-ce que justement cette manifestation du 23 avril, c'est pour faire plus, c'est pour faire pour être plus présent, pour faire plus?
Là, je pense que cette manif qui est aujourd'hui, elle est aussi interpro, c'est-à-dire qu'il y a les syndicats, enfin il y a la santé, l'éducation et la culture, évidemment. Et en fait, c'est des plans d'urgence que tout le monde a eu et on attend beaucoup du gouvernement. Est-ce qu'il faut attendre? La question. Mais et c'est aussi surtout, on parle, enfin comme il dit sur Jean-Pierre, sur les précaires. En fait, on est tous précaires et cette réforme qui arrive au 1er juillet de l'assurance chômage, elle va toucher beaucoup ceux qui ont les contrats courts, en fait, les CDD. Et là, en ce moment, c'est plutôt les jeunes et les femmes qui ont ce genre de contrat. Enfin bref, là, on va rentrer encore à toucher encore plus les précaires. Et après, est-ce que ça sera pas les intermittents? Parce que pour l'instant, ce statut, il va pas être, ce régime, il sera pas touché là. Mais on est carrément dans le viseur aussi du gouvernement et de, si les précaires, des intermittents de l'emploi sont pas sauvés là, est-ce que les intermittents sont sauvés en 2022? Ça, c'est la question.
Une autre conséquence du fait qu'ils ont un peu rien à foutre de la culture et de cette crise, c'est la casse générale de gens qui quittent leur corps de métier, leur passion pour aller faire toute autre chose parce qu'il faut bien bouffer. Peut-être de musiciens ou de jeunes artistes qui vont lâcher l'affaire parce que c'est la même. Et donc on risque aussi derrière, là, avec ce manque de considération, de se retrouver avec une sorte de désert culturel, non, à un certain niveau. Est-ce que je suis un peu trop dramatique quand je dis ça?
Je peux parler peut-être de la situation des étudiants dans les métiers artistiques, que je côtoie encore assez. Ils sont très lourdement impactés. Alors eux, ils sont pas encore dans une carrière, ils sont pas encore dans des engagements professionnels avec des productions, et en fait ils ont même pas eu le temps de mettre un pas là-dedans, qu'on leur dit déjà en fait là c'est foutu, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. En fait, notre situation à nous est bien sûr préoccupante, comme celle de l'éducation, de la santé. En fait, on traverse tous un truc très dur. Mais je pense que les étudiants, là, depuis 2020, c'est spécialement pas rigolo pour eux. Ce qui est compliqué aussi, je rebondis peut-être sur ce que tu disais, les musiciens traditionnels à Quimper, c'est un cas très particulier. Les étudiants, c'est un cas très particulier. Il faut pas oublier qu'en fait, on est tous reliés par un truc qui fait qu'on traverse un truc difficile, qui est peut-être plus difficile pour certains que pour d'autres. Et il faut peut-être pas céder aux tentations de se dire moi je vais essayer de penser pour ma gueule et puis je vais faire les trucs de mon côté, puis ça va passer, je vais traverser. En fait, si on fait tout ça à la fin, qu'est-ce qui va rester? Les petites assos, les petites salles, les petits restaurants, enfin tout ce qui met beaucoup de temps à surgir, ça peut être un musicien émergent, ça peut être, enfin tout ça c'est des années, on le sait, de travail, et tout ça là c'est en train de ne pas naître, et puis on sait ce que ça engendre, pour moi ce manque de perspective, c'est surtout ça le plus criant, quoi, sur
ouais. Moi il y a quelque chose qui me marque, c'est le, on parle de spectacle vivant, et là tout ce qui est en train de se, tout ce qui va suivre là pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le spectacle va devenir de moins en moins vivant. Il y aura plus de public, ou alors le public sera sur des chaises, tout ça. Et est-ce que notre métier, qui moi faire de la musique ou faire de la technique, prend son sens réel, c'est-à-dire rassembler des gens, les voir sourire devant, sans masque bien sûr, et les voir danser, les voir ça c'est quelque chose pour nous, en tout cas moi, mon côté musicien, je suis en train de me demander est-ce que ça a vraiment du sens actuellement et comment ça va évoluer. On entend des musiciens qui préparent des concerts, des manières de travailler différentes, qui s'adaptent en fait à ça. Je sais que les Merzines, vous avez un spectacle sur lequel vous avez travaillé comme ça. Et voilà, on est obligé un peu aussi de revoir notre but artistique en fait. Et je sais qu'il y a des groupes qui sont complètement à l'arrêt parce qu'ils font de la musique pour danser, et c'est comme par exemple pour la musique traditionnelle. Ça, c'est ultra compliqué quand même pour nous.
Et alors vous, les Merzines, c'est quoi cette nouvelle forme de spectacle que vous avez travaillé pour cette nouvelle ère?
En fait, c'est entre les deux confinements, parce que le premier, on était parti sur travailler sur un nouvel album, et comme on a dû avorter notre tournée qu'on devait prendre en mars, quand le premier confinement est arrivé, on était un peu frustrés parce qu'on n'a pas réussi à finir la tournée de ce dernier album. Et puis on se voyait pas se passer de scène, d'être complètement à l'arrêt. Et puis on a commencé à réfléchir effectivement sur un spectacle qui respectait à la base les normes qui étaient déjà imposées, donc assis, distanciation, masqué. Et c'est plus qu'un concert, parce qu'au final il y a eu un film qui a été créé aussi, un moyen métrage en fait, qui présente notre univers et qui aborde les thèmes qu'on aborde dans nos morceaux. Donc voilà, il y a une mise en en situation un peu dans une immersion du public avant le concert réel. Et puis après, on a développé toute une scénographie où on est nous-mêmes pour la plupart assis, avec un jeu de lumière assez développé. Donc beaucoup de travail là-dessus, et qui vraiment est typiquement adapté pour un public assis. C'est entre le ciné et le concert. Un ciné-concert un peu, mais qui reste puissant, justement. C'est pas quelque chose d'acoustique, mais c'est quelque chose qui reste puissant. Voilà, avec des morceaux plus atmosphériques. Donc voilà, c'était une idée pour nous, mais voilà, c'est pas... Pour nous, c'est pas l'évolution que doit prendre évidemment la musique. Pour nous, c'était une manière de patienter, de faire patienter aussi le public. Pour nous, pour le public. Et au final, bon, pour l'instant, on n'a jamais joué ce spectacle. Je sais pas si on va le jouer. Pour l'instant, c'est en septembre, donc on va voir.
On va très rapidement devoir laisser la place, parce qu'on va pas comme se quitter sans musique. Faut pas déconner. Autrement, ce serait un peu trop mortifère. Et puis, surtout qu'on a rendez-vous dans un quart d'heure, Place de la Liberté, et puis partout en France, pour manifester avec les copains et ces flight cases qui sont de sortie. Ça va créer beaucoup d'émotions, je crois, Jacquito, à beaucoup de monde. Ça va être un moment assez fort. Déjà, je voulais vous remercier toutes et tous de nous avoir consacré ce peu de temps. On aurait pu passer énormément de temps à parler de tout ça, et que ben voilà, je pense qu'en effet il va falloir se serrer les coudes, qu'on arrive à s'en sortir à un moment ou à un autre en tout cas, et ça va passer par ce genre de moments qui sont importants pour montrer son attachement, en tout cas l'attachement que nous on peut avoir à la culture, même si elle est dénigrée au niveau politique, montrer que c'est quelque chose d'essentiel, et voilà. Donc merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aimerait comme rajouter un petit quelque chose?
Moi, juste une petite chose. Je vais enlever mon masque parce que j'ai vraiment envie de dire quelque chose qui a été relativement puissant. Quand je suis arrivé ici au Quartz, j'ai croisé des artistes, des techniciens, des gens que j'avais pas croisés depuis un an et demi. C'est énorme. Nos automatismes, tout ça, on les a perdus. On n'est plus dans le rythme du travail, de partir en tournée ou quoi que ce soit, ou de faire un concert. Ça veut dire que tu regardes des gens, tu regardes leurs yeux. Putain, que ça fait du bien. C'est tout. Donc les flycases, on va taper dessus. Et voilà, je m'arrête là-dessus.
Non, juste une petite chose, parce qu'on... Non, mais ça va dans ton sens, en plus. Enfin, si je m'exprime correctement, en tant que batteur. C'est qu'on nous rabat que tout ça, on le fait au nom de la santé. Hein. Tout ce qu'on nous interdit de faire, justement. Moi, je voudrais juste dire que la culture, à mon sens... Alors, après, on partage ou pas, mais c'est de la santé. Ça crée... Le fait de partager, de se retrouver, d'aller voir, écouter, rencontrer des gens, discuter, vivre, ça procure de la santé et de la bonne santé. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas essentiel. C'est fondamental, même.
Je crois que c'est un joli mot de la fin. Et puis pour finir sur cette note musicale, on a Éloine de Scopitone Cisco qui va nous jouer deux morceaux. Nous, le temps, comme ça, après, ça vous laisse le temps de vous rapprocher de la Place de Liberté. Et on vous attend nombreux et nombreux d'ici un quart d'heure pour taper sur ces flight cases. Merci.
Come on, Marvin, spell your name. It's a shiny day, you're innocent. Go, Marvin, stop your game. A bad face against the current. All about myself. All about myself. Come on, Marvin, spell your name. It's a shiny day, you're innocent. Stop your game. Oh, but face against the current. All about myself. Merci.
Merci à vous. Je vais juste terminer sur une petite chanson de Neil Young, c'est Hey Hey My My. Je trouve que c'était un morceau qui était bien pour expliquer un peu tout ce qui se passait, tout ce qu'on a dit là. Donc, il y avait une phrase assez forte, c'est Rock and Roll Never Die. Et si vous voulez la reprendre avec moi après, n'hésitez pas. Never dies.
my, oh my, hey, hey. Rock and roll is here to stay.
Merci.
Merci à vous.
Et ben comme il est même pas encore 16h, peut-être qu'on peut avoir 6 minutes, Éloane, pour t'accueillir et te poser quelques questions, si tu veux,
ouais, bien sûr.
Au micro. Éloane de Scopitone Cisco. Peut-être que tu vas pouvoir nous parler un peu de toi, comment tu as vécu cette période depuis un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait chez toi, Kerlouan, dans ton studio?
Ben écoute, voilà, comme tout le monde... tout s'était surpris, on savait pas trop quoi faire, comment réagir à tout ce qui se passait. Moi, j'étais un peu apeuré au départ. Et après, Covid, quelque chose d'horrible hein, pour beaucoup de gens qui l'ont eu, évidemment. Mais finalement, ça m'a énormément moins fait peur par la suite quand je voyais certains chiffres, certaines choses. Enfin, j'ai eu une relation à la maladie... assez décomplexé, je dirais. Malheureusement, nous, on est tous dans la même situation pour énormément de monde où, voilà, comme on disait tout à l'heure, on peut pas travailler, mais quelque part, nous, en tant que musiciens, on a, pour certains d'entre nous, on a pu se réfugier un peu, pour ceux qui le pouvaient, dans la musique qui est quand même existante, qui existe de toute manière, même, quelque part, malheureusement, sans concert. Enfin, le but, c'est de pouvoir les présenter à des vraies personnes, quoi, pas devant un écran. Et moi, quelque part, j'en ai profité, si je peux dire ce mot-là, profiter, hein, malheureusement, mais pour composer. Donc, moralement, tout va bien, mais on attend avec impatience le jour où ça pourra revenir, parce que c'est bien beau de faire de la musique, mais si c'est juste pour se le garder pour nous et sans le dévoiler, c'est pas vraiment la définition de la musique. Donc c'est quand même archi dommage, et on espère juste que tout le monde sera là pour quand ça arrivera, le jour où on pourra enfin faire écouter, avoir des oreilles grandes ouvertes et des portes grandes ouvertes pour accueillir la musique pour tout le monde, quoi.
Toi, c'est la première fois que tu viens en Quartz ou t'es quand même passé pour soutenir les intermittents, intermittentes?
Malheureusement, enfin là c'est la première fois que je viens. On a eu du boulot avec le groupe Scopitone, là on était un peu à fond pile pendant que le Quartz faisait les actions, donc c'est la première fois que j'arrive.
Sachant que du coup t'étais pas très loin, étant donné que tu as été au Vauban, notamment donc avec ton label Upton Park, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer comment ça s'est passé?
Carrément. Alors c'était une sacrée bouffée d'air frais et humaine, musicale. Il y a deux compères en face de moi qui rigolent et qui étaient...
Toujours mathmata.
C'est une sacrée bamboche, tu veux dire.
C'est un synonyme de bouffée d'air frais, je crois. Non, c'était vraiment génial. Humainement, on a eu une super équipe. Artistiquement, que des talents incroyables. Le label Upton Park, qui venait de Paris, nous a fait ce cadeau-là d'organiser une semaine complète pour que enfin les artistes de leur catalogue viennent présenter leur musique sur scène, pour faire comme si en fait on était dans une vie normale. Donc du coup on a eu un peu cette parenthèse, on se disait une vie normale, en fait ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas eu cette sensation, même juste le fait de jouer un moment devant trois caméramans, quelqu'un à la lumière, enfin quelqu'un au son, il y avait un public, j'ai envie de dire entre guillemets un public de 8 personnes, mais moi j'avais un track pas possible, et ça faisait plus d'un an et quelques qu'on n'avait pas eu cette sensation de track positif, et franchement, ramenez-moi ça tout de suite, quoi.
Si je peux me permettre, je faisais partie des 8 chanceux qui ont assisté. Je crois pouvoir affirmer qu'on s'est tous pris une bonne tartasse. Ça faisait bien monde. Plaisir.
Ouais, c'était trop cool, merci.
Bravo Éloane, bravo.
Ouais, mais et bravo à toi Julien, parce que toi t'as été sur tous les fronts en plus.
Ouais, je m'y attendais pas.
Ah oui, au piano, c'est vrai, ouais.
Non, je te rejoins
par
complètement.
La suite.
Sur l'élégance, la bienveillance, toutes les personnes qui avaient vraiment des choses à sortir cette semaine, là, ça nous a fait un bien fou. J'espère que ça va pas être trop dur de ressortir de cette parenthèse, on va voir. On va essayer de taper sur des flycases et puis on va voir si ça permet d'aider un peu.
Bah justement,
espérons.
On va aller rejoindre la manifestation Place de la Liberté. Peut-être juste une date pour nous faire patienter pour la sortie de ton prochain album.
J'aimerais tellement bien t'en dire.
Non, pas encore.
Mais en ça va cas, dépendre de beaucoup de choses.
Il faut déjà aller écouter ce qu'a produit ce Capitaine Cisco.
Carrément.
Et ben merci beaucoup Éloane.
Merci.
Et puis merci à tous les participants de cette émission. On va rejoindre maintenant la manifestation Place de la Liberté. Salut Marion.
Je dis juste que donc l'émission sera diffusée en podcast sur le site internet de Radio U et sûrement aussi sur Fréquence Mutine.
Assurément.
C'est parti.